Bonjour à tous. Je posais la question, il y a des problèmes là sur les chaises et puis sur les bancs là. On n'ose pas s'asseoir. Vous avez poussé le mur ?
Une blague. Ma petite fille, elle dirait, c'est une blague, papy.
Ben c'est vrai, on est bien devant. Nous sommes dans le chapitre 7 de Néhémie. Alors, les 6 premiers chapitres, c'était la construction de la muraille. Vous avez vu la dernière fois, il était précisé qu'en 52 jours, le peuple avait reconstruit la muraille. Et là, nous avons 2-3 chapitres qui sont un petit peu différents, qui sont placés au milieu. Surtout le chapitre 7 est un chapitre de transition. Or ce chapitre, quand on le regarde au début, on se dit une liste de noms impressionnante comme ça, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir ? Quand j'ai lu et relu ça, fastidieux, des noms en plus difficiles, hein, parce que c'est pas des noms de chez nous. Et puis, j'ai posé, comme je fais d'habitude, j'ai posé la question à Dieu, qu'est-ce qu'il voudrait bien que je dise à travers ce texte ? Et croyez-moi, Dieu a tapé à la porte de mon cœur et il m'a montré que dans ce texte, il y avait des pépites que jusqu'à maintenant, je n'avais pas vues. Donc, je vais essayer de vous les partager ce matin et de voir en fait comment Dieu a changé ma vision en ouvrant mon esprit avec le sien. Je vais vous proposer justement de regarder un peu mieux. Nous lirons pas la liste de tous ces noms. Bon, d'abord, parce que vous me connaissez, si je commence là-dedans, on va y passer l'après-midi. Alors, soyons modestes. On va lire quelques versets, puis alors les noms, si vous avez envie de les lire, vous les lirez chez vous, hein, y a pas de problème. Mais tout d'abord, je voudrais compris, j'allais dire un peu différemment. Non, on prie toujours pareil. Mais merci à Estelle d'avoir, puis tous les musiciens, d'avoir introduit si bien, parce que je trouve qu'ils ont préparé le message. Ils le savaient pas, hein, et on s'est pas consulté, mais je trouve que tout ce qu'ils ont pu dire nous ont d'abord montré un Dieu unique, un Dieu tout-puissant, un Dieu merveilleux. Et puis je vais vous lire, tiens justement, parce que pendant que je témoignais, t'étais avec mon copain, alors forcément, je suis allé voir ce qu'il disait. Et un petit peu plus loin du chapitre 1 de Jacques, il dit comme ça, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés et mes sœurs. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de changement ni l'ombre d'une variation. » Ne vous y trompez pas. J'aime bien Jacques parce que justement, il a des remarques qui sont pertinentes, précises. Ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'on peut se tromper. Mais ce matin, on nous a bien dirigés à avoir les yeux portés vers ce Dieu extraordinaire. Et j'aimerais en remettre une couche encore un petit peu plus parce que je crois qu'il n'y a pas de mots assez fort pour définir le Dieu que nous aimons. Et justement, frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à l'aimer un peu plus, à ouvrir les yeux pour que nous ayons un cœur qui soit véritablement disponible pour laisser son esprit nous guider dans cet amour. Parce que c'est son esprit seul qui peut nous ouvrir le cœur pour nous permettre, s'il est possible, d'ouvrir encore plus les regards sur ce Dieu extraordinaire. Rien n'est impossible à Dieu, ça, c'est vrai. Et merci de nous l'avoir rappelé. Mais il est aussi un Dieu grandiose, un Dieu saint, un Dieu merveilleux. Je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais pas parler longtemps parce que je suis pas dans mon message là, c'est mon cœur qui parle, mais plusieurs fois je vous ai dit qu'un des attributs de Dieu qui me passionne et qui m'éblouit le plus, c'est sa sainteté, sa perfection. Nous ne sommes pas dans un monde saint. Et c'est vrai que tous nos problèmes proviennent de là. Tous. Pourquoi ? Parce que nous sommes souillés par ce monde dans lequel nous sommes. Voilà, on a parlé de Caïn, le premier qui a fait rentrer le péché. Enfin, non, je me trompe. Le premier, on va dire, qui a véritablement mis une horreur dans le monde. Premier crime. Et depuis, qu'est-ce que c'est devenu ? Depuis, on tue pour rien. Hein. Tuer n'est pas quelque chose de grave. Parce qu'il y a des milliers de façons de tuer quelqu'un. Ne serait-ce que par la langue. Tout le mal que l'on peut colporter, toutes les rumeurs que l'on diffuse et qui tuent nos frères et sœurs, notre voisin, toutes ces choses dont on se rend même plus compte. Et ce message, moi, m'a interpellé complètement en me montrant à quel point mon cœur était quelque part sensible à cette corruption et à cette pourriture dans laquelle je vis. Et je me suis dit, finalement, t'es aussi pourri que les autres. Ton cœur aime bien la pourriture. Ton péché, tu l'aimes bien. Eh bien, il faudrait peut-être que tu te le dises. Et ça m'a interpellé de plein fouet. Je vous invite à prier et à rentrer dans ce message. Père éternel, je voudrais te remercier parce que c'est un petit peu le thème que nous a indiqué Hatch dans cette préparation. Mais en même temps, je dois confesser que ça a été dur pour moi ces quelques jours qui sont passés. Parce que c'est toujours difficile d'avoir une glace en face de soi, un miroir, qui nous dit « tu vas dire des choses, mais regarde bien, parce que c'est de toi qu'il s'agit. » Alors avant de juger les autres, regarde bien dans la glace, et tu vas t'apercevoir que tu as déjà beaucoup de choses à regarder en toi et à régler. Et nous allons voir que ce matin, il existe un moyen. Le Seigneur m'a montré qu'il existait un moyen dans sa parole pour pouvoir justement marcher dignement avec lui. Et comme le passage d'un Samuel, hein, où il est question de David, il est dit comme ça que Dieu regarde au cœur. C'est vrai. C'est vrai. Dieu ne s'arrête pas aux apparences. Nous voyons comme Samuel. Pourtant, Samuel, c'était pas n'importe qui. Hein, c'était un grand, hein, parmi les grands. Et, il a fait comme tout le monde. Quand il a vu le premier des fils d'Isaïe, il a dit c'est certainement celui-là. Mais non. Dieu lui a dit, Dieu n'a pas la même façon de voir que toi. Il regarde au cœur. Il regarde mon cœur, il a regardé mon cœur cette semaine et il m'a dit, tu sais, c'est moche là-dedans, hein. C'est pas chouette. Et Seigneur, je voudrais que nous puissions avoir un moment d'honnêteté. Je crois que ce matin, nous allons être confrontés à la réalité de l'honnêteté, de l'intégrité de notre cœur. Je prie que ton esprit nous parle, que ton esprit nous aide aussi, parce qu'on a besoin d'être aidé, Seigneur. C'est vrai que c'est pas toujours de notre faute, parce que nous baignons dans un monde tellement méchant, tellement hors de portée de ce que tu es, qu'il nous est difficile d'en sortir. Mais montre-nous le chemin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a deux parties, si l'on veut dire, dans ce chapitre 7. Donc, je vous emmène dans le chapitre 7, hein, de Néhémie. Et nous avons les versets 1 à 4. Hop là. Je suis déçu parce qu'il n'y a pas notre ami. Ah si, il est là, il est là. Pour qui j'ai écrit exprès, pour qu'il puisse voir. Chapitre 1 et 4, on va les lire. Hein. Une fois que la muraille reconstruite et les battants des portes posés, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Hanani et Anania, le chef de la citadelle. C'était en effet un homme intègre, il parle de Hanani, hein, donc intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Je leur ai dit, ne faites pas ouvrir les portes de Jérusalem tant que le soleil n'aura pas fait sentir sa chaleur, et faites fermer les battants en leur bloquant, alors que les gardes sont encore à leur poste. Instaurez des tours de garde pour les habitants de Jérusalem, que l'on soit à son poste de guet, l'autre devant sa maison. La ville était étendue et grande, mais sa population n'était pas nombreuse et ses maisons pas encore reconstruites. Alors on peut se rappeler un petit peu le contexte, hein, où il y a des ennemis. Il y a des Juifs qui sont éparpillés. Il y a surtout des Juifs qui sont mélangés avec les païens. Hein, aux alentours de Jérusalem, nous avons vu que même le sacrificateur, la dernière fois, a essayé de corrompre Néhémie. La corruption est chose monnaie courante. Bon, pas beaucoup de différence avec aujourd'hui. Hein. Voilà. Et Néhémie, la première chose qu'il fait, c'est la tête. Et c'est important. Parce que parfois, on croit que c'est par le bas hein, que l'on va niveler et que ça va monter. Non, ça se passe pas comme ça. Néhémie sait très bien que si les dirigeants sont sains, ils vont donner de saines directions et cela va être bien. Donc Néhémie choisit des hommes dits de confiance et le texte nous dit qu'ils étaient intègres auxquels ils pouvaient compter et confier certaines responsabilités. Nous y voyons dans les versets 1 et 2. Hanani, donc son frère, et Anania, ont été élevés avec Néhémie et ont reçu une éducation saine. C'est important. On peut penser que devant leur action qu'ils avaient, la même dévotion à leur Dieu. C'est donc naturellement que Néhémie, qui connaissait l'état du peuple corrompu, devait mettre à leur tête des hommes de qualité, des hommes à part, qui étaient intègres, saints, proches de Dieu. C'est comme ça que l'on pouvait commencer à redéfinir une façon de vivre. Ensuite, ayant soigneusement choisi de nouveaux chefs pour diriger la ville, Néhémie illustre un second principe de saine pratique administrative, à savoir la formation de ses subordonnés dans les versets 3 et 4, après avoir prévu que les portiers, donc il donne l'explication, et les chantres ainsi que le reste des lévites auraient pour fonction de surveiller la muraille pendant le jour, afin que d'autres puissent continuer à travailler. Et oui, parce que les ennemis étaient toujours là. Les ennemis étaient tout autour. Et puis, comme il est dit, il y avait peu de monde, la muraille était grande. Ils étaient très éparpillés un petit peu partout. Voilà. Néhémie donna à ses frères des directives pour protéger la ville. Les Lévites surveillaient l'ouverture et la fermeture des portes. Mais la nuit, les habitants eux-mêmes seraient responsables pour la protection de la muraille. Ces directives montraient un grave problème. La ville était spacieuse et les habitants peu nombreux. Et les ennemis présents. Donc un nouveau plan urbain s'imposait. Dieu poussa Néhémie à faire un recensement de la population. Et là, ce sont les versets 6 à 69 que je vous laisserai lire. Donc, en second point que nous voyons, et c'est ça qui est le plus important dans ce passage-là, que peut-être on passe rapidement, c'est la séparation d'avec les impurs. Eh oui! Dans le peuple juif, il y avait eu beaucoup de mélanges avec les Moabites, avec les Cananéens, etc. Ils s'étaient mariés un petit peu partout. Et souvenez-vous, dans les chapitres précédents, nous avons vu qu'ils influençaient. Hein, ils faisaient remonter dans la ville des rumeurs, comme quoi, par exemple, les Juifs allaient se faire élire, Néhémie allait se faire élire roi, vous vous souvenez, hein, qu'on avait parlé de ça, et qu'il allait même choisir un prophète, et qu'il allait devenir le patron, maintenant, de toute la région, sachant que, bien sûr, ça allait remonter à Artaxerxès, et c'était le but. Mais ça n'a pas marché. Donc, Néhémie a mis à la tête ses deux frères, qui sont réputés pour être des hommes intègres, mais maintenant, il y a le peuple. Et si le peuple est impur dans une partie, il va souiller, vous savez, un compotier dans lequel vous avez mis des fruits, si vous en laissez qu'ils pourrissent, ils vont pourrir le reste. Hein. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça que ça marche. Eh bien, Néhémie va séparer je vais faire un petit essai tout à l'heure. Il va séparer des impurs. Revenons donc à l'essentiel. Dans notre application, vous voyez, on va aller directement à notre application, c'est pas un message théologique, loin de là. Vous allez voir que c'est un message excessivement pratique et on passe à l'application. Dans notre application, nous allons parler de cette obligation de se séparer du monde. Nous avons un Dieu saint. La Bible dit, vous serez saints parce que je suis saint. Impossible de, dans la sainteté, d'y apporter la corruption, d'y apporter les mensonges, d'y lancer des rumeurs, de dire, etc., etc., etc. Et là, dans ce recensement, nous voyons un mélange de mariage avec les païens dans les villes avoisinantes, la banlieue de Jérusalem. Le peuple de Dieu a pour obligation de se garder pur pour être en accord avec son Dieu. Là où deux ou trois sont d'accord, je suis au milieu d'eux. Là où ils sont d'accord, effectivement, dans le peuple de Dieu, il faut bannir la souillure. Tout à l'heure, merci encore une fois, Hadj, très bonne explication de la Sainte Cène, qui nous dit comme ça que nous sommes purifiés une fois pour toutes. Notre péché est pardonné. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Est-ce que nous pataugeons encore dans la gadoue? Est-ce que nous continuons à aimer notre péché? Moi, c'est ce que Dieu m'a dit cette semaine. Il m'a dit, oui, Michel, t'es un type bien, pas de problème, j'ai rien à dire contre toi. Seulement ce que j'ai contre toi, c'est que tu aimes ta gadoue et tu aimes bien y patauger dedans. Ça te fait plaisir, hein? T'es bien là-dedans, comme les cochons. Dieu règne dans l'accord et dans l'unité. Et c'est vrai, moi j'ai une profonde perception de là où deux ou trois se mettent d'accord. Pour moi, c'est véritablement capital, parce que là, il ne s'agit pas de discuter. Il ne s'agit pas de venir chacun avec sa perception des choses et de dire comme ça, pour moi le péché c'est ici, pour moi le pardon c'est ça. Non. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible le dit, le moindre des péchés nous sépare de Dieu. Le péché, c'est la mort. La mort dans la Bible, c'est la séparation. Et attention, vous savez que la mort, c'est une séparation définitive. Si nous continuons à patauger dans notre truc, à un moment donné, on ne va plus savoir dans quel côté on est. Dieu règne dans l'unité. Dieu règne dans la pureté, dans la sainteté. Et l'on ne peut pas mettre Dieu à une autre sauce. Ça ne marchera pas. Ça marchera pour nous, hein, les sauces on les fait hein, en cuisine, on sait bien, ça marche bien, la sauce ça sert à cacher la misère, hein, pas de problème, on sait bien faire ça, mais ça marche pas avec Dieu. Dieu est saint, Dieu est parfait, et ce que j'aime, et croyez-moi, je vous ai donné mon témoignage, vous savez d'où je viens, et ce qui m'a conquis, ce qui a pris mon cœur une fois pour toutes, c'est de voir cette grandeur de Dieu. Et plus j'avance dans la vie, plus je découvre que Dieu est encore plus grand que j'imagine. Et maintenant, je dirais, arrivé à un moment donné, je me dis, l'infini, c'est quoi pour moi? Ben, je sais pas. Vous savez, vous? Il paraît qu'il y en a qui savent quand ça commence. Et ce qu'on sait pas, c'est quand ça finit. Non, l'infini, c'est quelque chose qui nous dépasse et quelque chose qui va nous emporter dans une réalité que nous n'imaginons même pas. Et c'est ça qui est grandiose, parce que de croire en Dieu, d'avoir cette foi unique qui nous ouvre le cœur véritablement vers cet infini, vers cette sainteté, c'est cette grâce que Dieu fait couler régulièrement en nous et qui nous dit, tu sais, ton Dieu, il n'y a rien qui peut le définir. Parce qu'il est au-delà de ce que l'on imagine et de ce que l'on pense. Et ça, c'est fabuleux. Dans la sainteté, la sanctification, la mise à part, nous y voici. Dans ce recensement pour la séparation des impurs, vous serez saints parce que je suis saint. Alors, pour notre application, nous y venons. À quoi correspond la séparation? Alors, je vais utiliser un pendant, j'ai marqué, pour expliquer une illustration. Quand on se sépare de quelque chose, j'ai pris ça par exemple, je l'ai dans ma main, je veux m'en séparer, qu'est-ce que je fais? Je lâche, je n'ai plus aucun lien avec lui, je suis séparé là, on est d'accord? Mais si je fais ça, comme souvent on fait, si je fais ça, si je lâche, et puis que je garde un lien, quel qu'il soit avec lui, je ne l'ai pas lâché. Je ne suis pas séparé de lui. Et bien la séparation, c'est véritablement quelque chose qui est net, propre. Nous allons voir un petit peu comment, je vais vous expliquer un petit peu. On peut passer à la prochaine, merci. Mon Dieu me mit à cœur de rassembler les grands, les magistrats, donc, et c'est ce qu'il y a dans les versets. Et j'y vis écrit ce qui suit. Donc on voit une liste et on voit des gens qui sont troubles et d'autres qui le sont moins. Alors, à quoi correspond la séparation? J'utilise souvent un mot que l'on ne comprend pas toujours bien. J'ai eu des remarques qui m'ont été dit, Michel, je ne comprends pas ce que ça veut dire vraiment. On va passer. Bon, non, c'est, bon, tant pis, c'est pas grave. On va laisser comme ça, on reviendra parce que ça, c'est plus vers la fin. Mais c'est pas grave, j'ai du mal mettre une vue. Un mot que j'utilise, c'est, je dis, il faut tout lâcher. Vous avez vu ? Dans le petit exemplaire, c'est quand on garde des liens, on n'a pas tout lâché. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout lâcher ? Ça paraît simple. Pour moi, c'est simple. Tout lâcher, c'est abandonner ce que je tiens. Et pendant le temps où je ne tiens plus ce que j'avais dans les mains, vous l'avez vu tout à l'heure, je suis séparé de cette chose, pas de lien, rien. Je suis à part, séparé. C'est clair. Être saint, ça veut dire être séparé, séparé du monde. Il faut lâcher le monde, il faut tout lâcher. Or, nous avons des liens, et nous avons des liens que nous aimons bien. Oui, mais moi, tu comprends, il faut que j'assimile, que je réfléchisse et que je comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire de tout lâcher ? Alors, je vais lâcher avec toi, d'accord, mais permets-moi quand même de garder un petit peu de réflexion, ça aide. Les autres vont dire, moi, j'ai déjà tout lâché, il y a longtemps. Ce que je fais aujourd'hui, c'est différent. Je marche toujours dans la gadoue. J'avance et je patauge. Le but de notre réflexion de ce matin, comme du temps de Néhémie, pour retrouver la liaison parfaite avec Dieu, c'est de tout lâcher. Je vais le répéter. Dieu voulait que son peuple se sépare des impurs. Nous avons vu que même les sacrificateurs étaient corrompus. La pourriture était présente. Et vous vous rappelez au chapitre 6, ce sacrificateur qui veut entraîner... C'est quand même fou quand on y pense. C'est fou, c'est comme si un pasteur aujourd'hui se permettait de prendre quelqu'un et de l'emmener sur une mauvaise voie. C'était ce qu'il faisait. Il voulait faire rentrer Néhémie dans le sanctuaire, ce qui était un signe de mort, quoi. C'était quelque chose d'impossible à cette époque-là. Mais c'était quand même sa proposition. Chers frères et sœurs, rien n'est simple sur cette terre, car nous avons tout compliqué. Alors nous, les Français, nous sommes les rois de la complication. Ah, notre ami Descartes, on sait être compliqué. J'ai travaillé longtemps avec des Américains, j'ai une formation américaine grâce à ça, sur le plan théologique, et un jour, nous étions en réunion, et un des frères américains dit comme ça, parce que nous avions la visite d'un évangéliste qui s'appelle Yves Perrier, certains anciens d'entre vous doivent connaître, et les Américains lui disent comme ça, écoute, on aimerait que tu nous expliques, parce que il faisait beaucoup d'évangélisation, c'est vrai, c'était dans l'époque des années 80, et il y avait vraiment un énorme travail, et il n'arrivait pas à conclure. Et quand ils emmenaient les Français, j'en faisais partie, nous, on récupérait les fruits. Pourquoi ? C'était la question. Et Yves Perrier dit, bon, alors je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment pensent les Français. Parce que toute la question est là-dedans. Le Français, vous lui posez une question, vous lui dites, par exemple, est-ce que tu crois en Dieu ? Alors, les Américains, eux, sont au premier degré. Ils vont répondre oui ou non. Ça, c'est l'Américain. Le Français, il regarde et dit, oulalalalala. Alors ça, c'est une question. C'est une question pas facile à répondre. Mais qu'est-ce qu'il croit que je vais répondre ? Qu'est-ce qu'il pense seulement dans sa tête ? Pourquoi il me pose une question comme ça ? Et il répond non pas à la question, mais il répond en fonction de ce qu'il a compris que l'autre pensait. Vous voyez où on est ? L'Américain, il reçoit cette réponse, il dit, qu'est-ce qui se passe là ? Il pleut, je comprends rien, il n'a pas compris, il faut que je répète la question. Et donc, il envoie une autre question qui... Vous voyez à peu près le cheminement, quoi. Et donc forcément, ils ne se comprennent pas, quoi. Il n'y a pas de compréhension, parce que nous sommes compliqués. Alors tout lâcher veut dire quoi ? Je vais prendre quelques instants pour expliquer, afin que nous comprenions tous comment l'appliquer à notre vie. La première chose évidente, d'abord, c'est que pour tout lâcher, il faut comprendre que nous avons des choses à lâcher. C'est la première chose. Si nous ne sommes pas convaincus qu'il y a des choses dans notre vie à lâcher, on va pas commencer par là. Il faudrait peut-être penser par une autre voie et se dire, est-ce que Dieu est saint et est-ce que moi je suis saint ? Et par rapport à ça, est-ce que j'ai des choses à lâcher ? Nous devons bien sûr définir ce que nous avons à lâcher. Je suis, et ça, malheureusement, c'est avec beaucoup de peine que je le dis, et reste un pécheur. Pour rentrer en pleine communion avec le Dieu Saint, je dois tout lâcher, c'est-à-dire ce qui me retient à cette terre, et personnellement, je crois que rien n'est bon en moi. Depuis le départ, ma vieille nature, elle est pourrie. Et elle aime cette pourriture. Elle aime cette gadoue dans laquelle je patauge tous les jours. Ça, c'est la vieille nature. Alors je viens vers Dieu avec des mains sales, bien sûr. Impossible pour moi de parler avec Dieu, ma bouche est pleine de saleté. J'ai besoin d'être purifié, c'est-à-dire de tout lâcher. De venir au pied de la croix et de demander pardon pour que Jésus puisse me déclarer saint par son sang. Lui seul peut me purifier et me permettre de rentrer dans cette communion divine où Dieu me reconnaît. Il m'accepte. Mes prières sont reçues. Dieu ne peut pas entendre les prières de ceux qui sont encombrés, de ceux qui n'ont pas tout lâché. Et maintenant, pour vraiment expliquer, laissez-moi vous parler de trois éléments pour comprendre ce que tout lâcher veut dire. Et là, on va rentrer dans le détail de l'application. Le premier point, c'est de reconnaître mon état de pécheur. Ben oui, ça paraît simple, mais c'est quand même vrai de le reconnaître, que mon cœur est souillé. Au point, c'est ça qui est important, c'est pas de dire, Seigneur, j'ai péché. Tu vois, on pêche tous, moi j'ai péché aussi. Je te demande pardon. Amen. Ça, c'est pas prendre conscience de reconnaître mon état de pécheur. C'est au point d'en être malade, de ne plus pouvoir respirer. Et bien sûr que c'est le péché, le premier point. Il faut mettre un nom sur les choses, le véritable nom. Hélas, je sais pas vous, mais moi ça m'arrive. Hélas, nous mentons parfois. Nous mettons pas le véritable nom sur le péché qui est dans notre cœur. Parce que nous ne voulons pas l'entendre. Nous nous disons que ce n'est pas grave. C'est un petit péché. Et voilà comment le voile s'installe. Vous savez, le voile qui trouble tout. Après, nous ne voyons plus clairement les choses. Je n'ai pas mauvais caractère, je suis simplement plus vif que les autres. Et puis les autres, ils doivent l'accepter. C'est comme ça. Je ne bois pas. Je ne suis pas ivre, je suis joyeux. Je ne suis pas méchant, juste un petit peu plus sévère, etc., etc. Mais mes amis, c'est le péché qui s'installe, et après on croit que l'on prie, que l'on vit bien dans ces conditions. Dieu est absent de notre vie terrestre. Le spirituel est éteint. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est le terrestre qui décide, la vieille nature. Et vous savez, le diable est tellement rusé que la vieille nature, il l'a anoblie. Il en a fait une déesse dans notre vie. Je suis pas mal. D'abord, les autres, tu les as vus, ils sont beaucoup plus moches que moi. Mon cœur, regarde. Je le connais, j'ai déjà partagé avec Dieu. J'ai donné mon cœur à Dieu. Je suis bien, bien dans ma peau. Bien dans mon péché, bien installé. Or, Dieu nous dit, comme il a dit à Néhémie, sépare le bien du mal. Et Néhémie savait ce que c'était le mal. Il ne trichait pas, il n'y avait pas de triche, ça n'existait pas dans son cœur. Si Dieu l'avait choisi pour faire ça, il faut mettre un nom sur les choses, le véritable nom. Et parfois, nous mentons. Mais mes amis, c'est le péché qui s'installe. Dieu est absent de notre vie terrestre. C'est le terrestre qui décide. C'est la vieille nature. Certains sont encore des bébés. Je voudrais lire un passage dans Hébreux 5. Vous pouvez venir avec moi. Je ne l'ai pas mis là. Voilà, Hébreux 5, des versets 11 à 14. Ouais, je suis à 7, pardon. J'avais pas le même texte, je disais, tiens. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Ça commence comme ça, nous avons beaucoup à dire. et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenu lent à comprendre, alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes même à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pierre va reprendre cette idée que nous en sommes au lait, et Paul aussi. Mes amis, quelle histoire que de croire que le petit péché n'est pas un péché. J'ai même écrit quelle menterie, quelle diablerie. Le diable est rusé. C'est un menteur. Il vient dans notre cœur insinuer des choses qui ne sont pas. Le péché, c'est le péché. Et si j'ai des problèmes dans ma vie, et j'en ai, je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas vainqueur de tout, c'est pas vrai. Eh bien, ces problèmes-là, je ne dis pas que ce n'est pas de ma faute. Je ne dis pas que ce n'est pas un péché. Je vais vers Dieu et j'étends mon âme en disant, Seigneur, aide-moi parce que je suis un pécheur. Et Dieu aime le pécheur qui se repent. C'est ça, tout lâcher. Donc le premier point, c'est le péché. Et la question que je peux poser, c'est où sont les hommes de Dieu qui discernent avec justice la vérité? Mes amis, ouvrons les yeux sur notre Dieu qui est saint, qui est merveilleux. Ouvrons les yeux sur ce qu'il fait et ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme. Alors ne faisons pas descendre Dieu parmi nous pour en faire un homme comme nous. Ça ne marchera pas. Dieu est au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Le second point, après le péché, le second point, c'est quoi? C'est qu'il faut demander pardon. Ah, il faut aller au pied de la croix et confesser ce péché, le reconnaître, le dire comme une vérité, et malheureusement, souvent, cela devient pénible de constater, comme le dit Paul, « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Malheureusement, beaucoup pensent que demander pardon, c'est comme demander un morceau de pain, vite fait, bien fait. Je pardonne, Seigneur, excuse-moi, on m'appelle à côté. J'ai des choses à faire. Et Dieu, il dit, attends, je voulais parler avec toi, justement, de ce péché. Alors, attends, et l'autre fois. Et on s'en va, et on croit que l'on peut parler à Dieu comme ça. Où est le respect de Dieu? Où est le respect de sa grandeur? Dieu règne en majesté. Alors, bien sûr, on ne le voit pas, ce roi. Alors, on croit qu'on peut tout faire. Et il règne quand même, ce roi. Beaucoup pensent que demander pardon, ça se passe comme ça. Ce n'est pas ainsi que le pardon est accordé. Demander pardon, c'est avoir honte de ce que l'on a fait. C'est venir vers Dieu avec une profonde tristesse du pécheur qui a commis sa faute. C'est cela le pardon qui libère. Le pardon qui produit du fruit dans ma vie. Pourquoi? Tout simplement, le pardon me pousse à aimer ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, et je me laisse à aimer Dieu comme il le mérite sans demi-mesure. En Dieu, il n'y a pas de mesure. Dieu est infini, son amour est infini. Dieu nous aime à l'infini. C'est pas la peine d'imaginer que Dieu va nous... Mais qu'est-ce que tu reviens avec ton péché, toi? Dieu regarde les hommes, il les voit tous comme des pécheurs. Mais le pécheur qui vient meurtri par son péché, qui dit, Seigneur, comme j'aime bien, vous voyez, ma position, c'est celle-ci, cette parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien qui vient devant Dieu et dit, Seigneur, t'as vu? Je suis là. T'es pas n'importe qui, hein. Je prie, je donne la dîme, je fais ci, je fais ça. C'est pas comme l'autre là-bas dans le coin qui se cache, parce que lui, il a des choses à se faire reprocher. Seulement l'autre, il est là dans un coin et puis il est meurtri par son péché. Et il dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai péché. Dieu regarde ce publicain qui a conscience de ce péché. Et le pharisien, il dit, reste bien là où tu es. Frères et sœurs, soyons prudents de ne pas devenir ou d'être des pharisiens. Dans le pardon, je dois voir et recevoir par l'Esprit la compassion de Dieu qui laisse sa main descendre sur moi pour porter avec moi ma faute. Compatir, ça veut dire porter avec. Dieu fait descendre sa main quand le pécheur s'approche de lui pour demander pardon. Elle vient porter avec lui. Elle dit, tu sais, mon fils sur la croix a payé pour toi. Une fois pour toutes, va. Va en liberté. Et là, l'homme peut repartir tranquillement, libre, pardonné. Et il peut commencer à parler avec son Dieu. Et le troisième point, très important. Quand on a péché, qu'on a demandé pardon. Troisième point, qu'est-ce que c'est? C'est la repentance, mes amis. C'est la repentance. Et c'est quoi la repentance? C'est se détourner de mon péché, quel qu'il soit. Combien de fois n'ai-je pas prié d'être pardonné de mon péché que j'aime bien? Je viens de dire une chose horrible, non? Mon péché que j'aime bien. N'avons-nous pas des péchés que nous aimons bien? Pas de ma faute, Seigneur. Ma mère qui m'a créé comme ça. Si tu veux que j'y fasse. Je suis mauvais. Puis je ne suis pas si méchant que ça. T'as qu'à regarde les judaïstes, regarde les autres, ils sont beaucoup plus méchants que moi. Il y a tellement de gens plus méchants que moi. Va t'occuper d'eux. Moi, je ne suis pas si méchant que ça. C'est de la repentance, ça? Pas bien l'impression, hein? Soyons honnêtes. Séparons-nous une fois pour toutes de nos péchés. Vous y arrivez complètement? Honnêtement, je vais vous dire, moi, j'y arrive pas. Je souffre de ne pouvoir être saint, de ne pouvoir vivre en plénitude avec Dieu tout le temps. Tout lâcher, c'est reconnaître ça. Tout lâcher, ça veut dire se séparer de ses propres convictions, de cette propre connaissance que nous avons, que quelque part, au fond, nous ne sommes pas si mauvais. Nous sommes bons. C'est Rousseau qui disait, hein, il y a du bon dans l'homme. Moi, je dirais que, en regardant bien ma nature, il n'y a rien de bon. Et combien de fois je prie en disant, Seigneur, comme disait David, il dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais crée en moi un cœur pur. Parce que le cœur que j'ai, ce cœur de chair que je regarde, il est mauvais. Pas par rapport à vous. Pas par rapport à quiconque, ça n'a aucune importance, c'est pas là pour se mesurer, par rapport à Dieu. Dieu qui aime infiniment, même le pécheur comme moi. Et des fois, j'ai dit au Seigneur, mais franchement, comment tu fais? Et il dit, c'est ça la différence. C'est ça la sainteté. C'est ça l'amour infini, la compassion. Notre Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Tout lâcher, c'est donc le reconnaître. Je suis un pécheur. Je ne veux pas, mais c'est dans ma vieille nature. Et les moments de faiblesse, eh ben, je cède. Parfois, sans m'en rendre compte. Moi, vous savez, j'ai été élevé dans des milieux difficiles, méchants. Il n'y avait que la haine, les coups et ceux qui pouvaient se défendre. Alors, vous avez vu, j'ai une stature qui va à peu près, mais ça ne m'a pas empêché d'en prendre. Et chaque fois qu'il y avait un mauvais coup qui arrivait, je commençais à me tasser. Et dire, toi, tu vas t'en prendre une bonne. C'était ma façon. Vous croyez que j'ai perdu? Non. Non, non. Le monde est tout aussi méchant. Et combien de fois je me tasse comme ça? Puis au bout d'un moment, il y a un esprit en moi qui me dit, Michel, tu es en train de redevenir ce que tu es. Tu es mauvais, aussi mauvais que les autres. Puis il y a des fois, ben, avec les soucis de la vie, je cède. Je ne vais pas le taper, mais dans mon cœur, comme dit Jésus, quand vous avez déjà fait. Vous avez commis cet acte. Combien de fois j'ai donné des coups de poing sur le nez de ceux qui étaient en face de moi? Bien sûr, pas physiquement, mais dans mon cœur, je l'avais fait. Et vous ne croyez pas que c'est un péché, ça? Ben si, ça l'est. Je constate que bien des fois, je devais être méchant de nature. Et Dieu m'empêche de céder. Pourquoi? Et puis là, je vais vous révéler une idée qui est intéressante. C'est que j'arrive à ne pas céder à mes penchants mauvais. C'est pas tout le temps que je suis un pêcheur, heureusement. Ça m'arrive, avec la fatigue, avec tout un tas de trucs. Mais les trois quarts du temps, comme je suis un homme qui passe du temps avec Dieu et qui prie, je fais une chose qui est très très importante et qui me permet que Dieu me donne la victoire dans mes difficultés. Vous savez ce que c'est ? J'ai mis ma volonté dans les mains de Dieu. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui as pouvoir sur ma propre volonté. Je te donne le droit de décider à ma place. Vous savez, nous avons été créés libres. Nous avons le libre arbitre, comme on dit, et nous en jouissons. Eh bien, pour être séparés d'avec le monde, nous avons cette capacité, nous, de ne pas être indépendants, mais de revenir vers Dieu et de céder nos droits et de donner ce qu'il y a de plus cher pour nous, notre propre volonté. Seigneur, je ne veux plus décider, je te demande de décider à ma place. Souvenez-vous, dans Philippiens, il est dit comme ça, « Accorde-moi, Seigneur, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Donne-moi, s'il te plaît, la capacité de ne pas être méchant. Je ne peux pas de ma nature, je suis un méchant. Mais toi, tu peux changer ça. Tu peux même me permettre d'aimer mes ennemis. Oh, j'y arrive pas toujours. Mais au moins, tu peux m'empêcher de les haïr et de leur vouloir du mal. Ça, c'est possible. Et c'est pas un travail qui se fait en 5 minutes. C'est un travail de longue haleine. Mais c'est pour ça qu'il faut décider de tout lâcher. De regarder les choses en face. Néhémie nous dit qu'il faut séparer ce qui est impur de ce qui est pur. Il faut le séparer. Dans ma tête, dans mon cœur, en moi, dans mes pensées, il faut que je décide volontairement de séparer les choses. Je le peux. Je n'ai pas la volonté de faire les choses. D'accord, ben je donne ma volonté à Dieu. Et je dis, Seigneur, accorde-moi, s'il te plaît, la possibilité d'être vainqueur. Si j'ai des problèmes, moi j'ai des problèmes avec la violence, avec l'agressivité, oui, c'est un de mes problèmes. Mais d'autres vont avoir des problèmes de caractère, des caractériels. Oh, Seigneur, combien il peut y avoir de caractériels? Je travaille dans un monde d'élus et tout ça, rempli de caractériels. T'es fou. Bon, c'est comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal dans le peuple de Dieu? Non. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Jésus nous donne l'exemple de notre relation. Je peux avoir une relation saine avec tous, non pas parce que je le veux, mais parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et si j'y arrive pas, si pour moi c'est un problème d'aimer les autres, je peux venir au pied de la croix et de dire, Seigneur, je te donne ma volonté pour aimer les autres. Je sais pas aimer. Attention, il y a deux façons. Moi, je sais pas aimer parce qu'il y a des choses qui ont été cassées. Mais il y a d'autres qui savent pas aimer parce qu'ils veulent pas aimer. Parce qu'ils s'aiment eux-mêmes. Voilà. Mais Jésus nous dit, comme je vous ai aimé, de toute cette profondeur. Et imaginez un instant, Jésus, le Fils de Dieu, sans péché, saint. Il est là parmi nous dans son ministère, dans les 3 ans qui vont précéder la croix. Il est là et il témoigne de ce que doit être une vie exemplaire. Et je puis vous assurer que c'était une vie, mais extraordinaire. Et il nous demande d'être pareil. Je vous ai donné un esprit. J'ai mis dans votre cœur un esprit de puissance. Mais cette puissance, comment est-ce que vous l'utilisez? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon d'utiliser la puissance de Dieu. C'est d'abord de céder la sienne. C'est de venir au pied de la croix et de dire, Seigneur, je suis mauvais. J'ai même pas envie, Seigneur. Parce que mon péché, je l'aime bien. Donc, j'ai pas envie de le lâcher. Ah ouais, et puis quand je vais me présenter devant lui, il va dire, dis donc, t'as rien lâché sur terre, hein. On peut dire que t'as été costaud, hein, t'as rien lâché. Oui, mais aujourd'hui, t'auras rien. Terrible. Vous savez, l'intégrité, c'est lié avec l'humilité. C'est lié avec le fait que je reconnais en moi ce qu'il y a de réel. je mets un miroir, comme Jésus a mis cette semaine un miroir en face de moi, et je passais du temps à pleurer, parce que dans ce miroir, je dis, mais Seigneur, je sais ça, pourquoi tu me le montres? Bah, parce que tu as besoin que je te le rappelle, parce que c'est la vérité, parce que tu dis que tu as tout lâché, puis dès que je t'ai tourné le dos, comme Jésus qui dit comme ça, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et les gens, ils viennent avec leur sac à dos, ils posent leur sac à dos, et disent, Seigneur, je pose tout à tes pieds. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! C'est léger d'un seul coup. Je m'en relève, tout va bien, j'ai tout abandonné. Et Jésus dit, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de tous tes soucis, de tous tes ennuis. Merci Seigneur. Prends son sac à dos. Oh, c'est lourd. Il repart. Il a tout ramené. Il n'a rien lâché. Et c'est ça la bonne question pour nous, c'est de savoir si nous pouvons lâcher. J'ai dit à Dieu, je te donne la possibilité de faire ce que tu veux dans ma vie. Accorde-moi le vouloir et le faire. Est-ce que vous avez fait cela? Est-ce que vous avez jamais fait cela? Pas sur la totalité. Pas sur le fait d'être des pécheurs. Non. Parce que ça, je suppose que vous êtes convertis et que vous l'avez tous fait. Mais d'être placé devant la vérité de son cœur, en toute honnêteté. J'ai de l'amertume dans le cœur, Seigneur. Vous avez vu l'agressivité? Elle est là, dans la main. Et je peux pas m'en passer. Ça me bouffe la rate. Parce qu'il y a ça. Et Jésus dit, mais je te demande pas ce qu'il y a ça. Je te demande juste de lâcher. Pour l'amertume, c'est beaucoup. Pour l'anxiété, pour les angoisses, pour ceux qui travaillent. J'ai travaillé comme vous. Combien de fois j'ai eu cette pression et on a cette anxiété qui est sur nous, qui devient une angoisse qu'on ne peut pas maîtriser, qui nous bouffe complètement et on est là, on est asphyxié, on n'a plus d'air. Et après, on va vers Dieu, puis on dit, Seigneur, aide-moi à supporter, à traverser cet orage, etc. Dieu dit, attends, je ne vais pas t'aider à faire ça. Nous nous trompons de prière. Lâche tout. Et je vais m'en occuper. Mais si tu veux porter, puis que tu me demandes de porter avec toi, ça ne va pas marcher, ça. Tes angoisses, tu les lâches. Tu les laisses, tu les poses, tu t'en vas. Et nous, on va s'en occuper. C'est dans ces trois points, le péché, le pardon et la repentance, que nous trouvons la définition de tout lâcher. Néhémie est donc obligé de séparer les impurs du peuple. Si nous devions séparer ce matin les purs des impurs, qui est-ce qui resterait dans cette salle? Qui devrait d'abord tout lâcher devant Dieu? Je dirais moi. Je suis le premier. Je dois tout lâcher chaque matin, reconnaître ma vieille nature et sa facilité à pécher. Seulement dans mon cœur, et ça c'est dans chacun de nous, je pense, il y a une nouvelle nature qui réclame la grâce. Chaque matin, quand je suis placé devant la réalité du pécheur, c'est vrai, je dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, libère-moi, crée en moi un cœur pur. Et Dieu dit, regarde, j'ai mis en toi une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Si le diable te les ramène, rends-lui. Laisse-lui. T'en occupe pas. Par contre, cette vieille nature, elle réclame la grâce. J'ai besoin de Dieu. Je voudrais vous lire, pour terminer, ce psaume 130, que j'aime beaucoup. Oh, on les aime tous, hein. Petit psaume 130, on va le lire tout entier. Mais c'était surtout les versets 2 à 5. Du fond du gouffre, donc du fond d'où je suis, de cette réalité du monde dans lequel je vis, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Ça, c'est une prière, c'est une demande, une intercession. Si tu tenais compte de mes fautes, Éternel Seigneur, mais qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, bien plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Vous voyez, c'est auprès de Dieu que se trouve la libération. Je vous invite à faire comme moi, à aller auprès de Dieu pour être libéré. Mais malheureusement, c'est tous les matins que nous devons faire ça. À chaque jour suffit sa peine. Moi, je ne suis pas du soir. Hein. Le soir, pouf. Peut-être que d'autres sont du soir. Et je suis du matin. Quand je me réveille le matin, je me réveille avec toute la journée passée. Eh bien là, je choisis de la laisser, de tout lâcher. Et de pouvoir redémarrer dans une journée pleine parce que Dieu accorde la libération. C'est possible avec Dieu. Aucune addiction ne peut résister devant la grâce de Dieu. Mais moi, qu'est-ce que je veux ? Je propose de prier pour tout lâcher. Prenons le temps, les uns les autres, ceux qui veulent prier, à voix haute ou à l'intérieur de son cœur. Plaçons-nous généreusement devant ce Dieu qui est plus que généreux. Le mot généreux ne convient pas. Plaçons-nous devant ce Dieu qui est aimant, qui nous aime d'un amour sans mesure. Et cet amour est disponible pour nous. Si tu as mal dans ton cœur, si tu souffres d'une quelconque difficulté, sache que Dieu t'aime. Il n'aime pas ton péché, mais il t'aime. Alors, lâche, lâche tout. Laisse tomber, comme tout à l'heure on a vu, laisse tomber. Rends au diable ce qui lui appartient. Remets dans la boue ce qui doit aller dans la boue. Et toi, ouvre ton cœur à cette sérénité. Ce matin, je vous propose de tout lâcher et de laisser la grâce rentrer dans chacun d'entre nous, que nos cœurs puissent être débordants de joie par cette réalité que c'est la grâce qui nourrit le chrétien. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu nous permets d'avoir, tout ce... Alors, pardon, c'est encore long, parce que quand je rentre dans la discussion de ce qui te concerne, de ce qui me concerne avec toi et de ce que nous pouvons faire ensemble, je peux parler toute la journée sans m'arrêter, sans problème, parce que Dieu est infini. Et que dire de lui qui ne soit pas encore à redire, à refaire? Merci Seigneur pour les quelques mots. C'est vrai que tu pardonnes le pécheur, mais pas n'importe quelle façon. C'est peut-être ça qui est le plus difficile à comprendre. Pardonne-moi d'aimer parfois mon péché, Seigneur, et de constater après que je cède comme les autres, parce que quand je donne accès au diable, même une toute petite partie, il va prendre tout le reste. Seigneur, merci en attendant que tu ne te lasses pas de nous pardonner. Merci de cette réalité que toi, ton amour est toujours constant, pareil, tu es fidèle, tu ne changes pas. Je prie que tu nous aides ensemble maintenant dans un moment de prière à pouvoir nous unir avec toi. Au nom de Jésus.